Bonjour, je vais parler également des ressources minérales, mais d'un point de vue un peu différent de celui de la présentation précédente. Je vais parler de métaux-société. Je vais parler de cette discipline de géologie économique et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, on ne va jamais épuiser nos ressources de métaux comme le cuivre, l'aluminium, les terres rares. Donc, un point de vue très différent à ce qu'on a vu, entendu de ce matin. Je vais parler de métaux qu'on utilise chaque jour dans les maisons, le plomb, le cuivre, l'aluminium. Je parle également des métaux un peu plus nouvelles, les métaux qu'on trouve comme les terres rares qui sont présentes dans les voitures hybrides, dans les éoliens, les métaux un peu nouveaux. Vous avez peut-être vu les diagrammes comme ça, les diagrammes dans lesquels on présente la consommation d'un métal, ici le fer, dans toute l'histoire de la Terre. Et on voit le constat comme ça, dans les 25 ans à venir, on doit produire une quantité de fer équivalent de tout ce qui était produit dans toute l'humanité. Donc, quand on voit les chiffres comme ça, dis donc, c'est quelque chose d'impressionnant. Mais pour présenter mes idées, je vous invite de considérer les trois constats qu'on a sur ce dépôt. Le premier, les Japonais ont développé un autre type de catalyseur dans lequel le platine a été remplacé par le manganèse. Est-ce que c'est important? Le deuxième, les écologistes anglais, il y a 10 ans, ont proposé un nouveau impôt pour les métaux rares, comme le cuivre, le plomb, et qu'est-ce que j'ai mis là? L'argent. Troisième, un journaliste a proposé qu'une guerre se peut déclarer à propos des dernières gouttes de pétrole. Considérez d'abord ce premier constat. Quand je pose la même question à mes étudiants, ils sont les géologues. Ils disent pourquoi c'est important de pouvoir remplacer le platine par le manganèse. Eux sont les géologues, ils disent donc platine c'est un métal plutôt rare, manganèse c'est plutôt abondant. Et c'est vrai parce que si on considère ce tableau, en haut, j'ai groupé les métaux plutôt abondants, comme le fer, l'aluminium, le manganèse. Au milieu, les métaux de base. Et en bas, les métaux précieux. On note que sur la gauche, on a les concentrations dans la croûte continentale. Au milieu, les concentrations dans les minerais. Et on note les différences de concentration. Mais beaucoup plus important, c'est le prix. Plus un métal est rare, plus le prix est important. Il y a une relation. La relation, comme on voit à droite, cette relation entre prix et teneur dans la croûte continentale et dans les gisements. Donc, si on peut remplacer le platine par le manganèse, une réduction importante de le prix de chaque catalyseur, les catalyseurs qu'on trouve sur chaque voiture. Deuxième, les notions de métaux rares, la notion qu'il faut limiter la consommation de ces métaux. Plomb, cuivre, argent. Si je pose la question, on utilise comment le plomb dans notre société? On parle peut-être de tuyauterie, les batteries. Mais l'utilisation, il y a 10 ans, était quoi? Si je dis sans plomb, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'essence. On a utilisé beaucoup de plomb dans l'essence jusqu'il y a 5 ans. Et ensuite, on a retiré le plomb de l'essence. Pourquoi? Parce qu'il est toxique. L'argent, une utilisation importante de l'argent, c'est dans la photographie. Mais qu'est-ce qu'on utilise maintenant? On utilise les appareils numériques. Le cuivre, c'est un peu plus compliqué parce que J'ai montré une photo d'un téléphone, un portable, qui remplace les lignes téléphoniques qui a été construit en utilisant le cuivre. Mais en même temps, la consommation, maintenant dans les voitures, il y a une grande quantité de cuivre. Et la consommation de cuivre a augmenté. On peut combler un peu de cette utilisation par le recyclage, mais les limites, il faut trouver une source de cuivre pour les pays en développement. Et d'où vient ce cuivre? Ici, un autre petit exercice. Il y a 5 gisements. 5 gisements de cuivre qui diffèrent par les localités, par la concentration et pour le tonnage, la quantité de cuivre. Quel est le plus intéressant? Donc, on peut éliminer les 2 premiers. Par premier, c'est en Groenland, dans un climat très rude. Le 2e, nord de Pakistan. Ce n'est pas une localité d'ouvrir une mine. Donc, les 3 prochaines sont en France. Le 3e, c'est plutôt petit, avec une teneur relativement faible. Ce n'est pas intéressant. Intéressant sont les 2 autres. En France, j'ai choisi le Larzac. Pourquoi? Parce que c'est le village de cette personnalité française avec le rond moustache, avec le pipe, avec le roquefort. Si on pose la question, est-ce qu'on peut ouvrir une mine dans le voisinage de José Bové? Bon, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes aussi pour l'île, mais bon, peut-être que c'est plus raisonnable parce que c'est une partie de la France avec une tradition de mine. J'ai montré ce diagramme aussi pour illustrer un autre contexte. Ah oui, celui-là, c'est le préféré. Pour illustrer qu'il y a, quand on considère de façon très générale les mines de cuivre, de plomb, il y a une tendance d'avoir les petites mines avec une concentration importante et les grandes mines dans lesquelles la concentration de métal est plutôt faible. Donc là, j'exagère un peu, mais voici les mines, un cristal de cuivre et la terre qui représentent les ressources différentes. Ici, j'ai montré une relation très simple entre la teneur en cuivre dans un gisement et le prix. Si le prix est relativement faible, la concentration du cuivre dans le gisement doit être relativement importante. Si le prix monte, on peut exploiter un gisement avec une concentration de cuivre beaucoup moins importante. Sur ce diagramme-là, très schématique, c'est un plan d'une mine où il y a un petit noyau très riche, un border moins riche. Si le prix augmente et la concentration exploitable chute d'ici à là, le volume de cuivre exploitable est beaucoup plus important. On bouge dans ce sens, on peut recuperer la concentration de cuivre beaucoup plus significative. Donc, tout dépend de le prix du métal. Un autre exemple, ce sont les terres rares. Les terres rares, et vous savez peut-être qu'il y avait une crise en concernant les terres rares dans les 3 dernières années. Pour plusieurs raisons. On a commencé à utiliser les terres rares pour toutes sortes d'applications. Dans un grand éolien pour produire l'énergie propre, il y a 1 tonne de terres rares. On note que la consommation de terres rares en 2009 était moins importante que la consommation. Il y a une crise. La Chine, qui est le premier producteur de terres rares, a commencé à limiter les exportations. Et la crise était provoquée quand les militaires aux États-Unis ont réalisé que le cérium, c'est une terre rare, utilisé dans le système de navigation de missiles de croisière, ont été raffinés au Japon en utilisant le cérium exploité en Chine, qui a créé une certaine inquiétude au Pentagone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, Le Congrès américain a accéléré le cours pour le terroir. Dans plusieurs pays, au Canada, en Afrique du Sud, en Groenland, en Australie, les compagnies minières ont cherché les gisements de terres rares, et on peut dire maintenant qu'il y a une petite pénurie de ces métaux importants pour quelques années, 5-6 ans, pas plus. Et après, grâce à cette exploitation, cet effort pour trouver les autres gisements, on va pouvoir satisfaire notre besoin de métaux comme celui-là. Cette dernière question. Les gisements de pétrole sont un peu différents. On sait bien qu'aux États-Unis, on a exploité, épuisé les grandes ressources de pétrole sur Terre. Et on commence l'exploration un peu plus au large, sur les côtes. Voici quelques images. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? Première chose, on a trouvé les grands gisements de pétrole au large du Brésil, au large de l'Afrique, dans un contexte un peu difficile à accès sur une couche épaisse de sel, mais les grandes ressources qui étaient inconnues il y a 3 ans. Si on a posé la question, quel pays est le plus probable d'accueillir les grands gisements de pétrole, on a dit, bon, un pays de l'Afrique centrale. On a trouvé les grandes ressources de pétrole au Kenya. Celui-là, il a les grandes ressources de pétrole dans le golfe du Mexique. Et quand je dis golfe du Mexique, EVP, c'est dans un petit souvenir de ce qui s'est passé il y a un an, il a les conséquences importantes sur l'environnement de l'exploitation de ces gisements. Et j'ai ajouté en bas quelques grands titres concernant les gaz de schiste, écrits en 2009. Quelques points de vue plutôt optimistes. Ils ont noté que grâce à l'exploitation de gaz de schiste aux États-Unis, cet pays dans lequel les prévisions étaient pour une dépendance importante pour les importations de gaz naturel est devenu self-suffisant. Il y a cette phrase-là, « Doit Gazprom, le fournisseur de gaz, de 50% de gaz en France, doit avoir peu de gaz de schiste. » Donc, plutôt optimiste. Mais quand on considère ce qui s'est passé au Parlement de France il y a un mois, on a un point de vue très différent. Quand on parle de gaz de schiste en France, le type de réflexion sont plutôt comme ça. Une industrie catastrophique pour l'environnement, pour la santé de l'humanité humaine. Un grand nombre de produits chimiques, évidence de pollution, utilisation de grandes quantités d'eau, effets catastrophiques sur l'environnement. Mais à quoi je parle ici? Ce n'est pas le gaz de schiste. Ce monsieur-là, c'est un ouvrier dans une industrie beaucoup plus nocive pour la santé publique. C'est quelqu'un qui travaille sur une ferme de tabac en Zimbabwe. Mais on connaît très bien les avantages, les nécessités de fournir la nourriture, mais les conséquences sur l'environnement de cette industrie. Mais on ne dit pas stop à l'agriculture, malgré les dégâts. Ici, ce sont les algues vertes de Bretagne. On dit donc qu'il faut faire un bilan entre les avantages et les inconvénients. Production de gaz de schiste en France. Quels sont les avantages? C'est une source d'énergie relativement propre. Relativement propre, c'est le plus propre de toutes les énergies fossiles. Sécurité d'approvisionnement. plus d'extorsion de Gazprom. Vous avez peut-être noté que cette petite bagarre entre l'Ukraine et Gazprom n'est pas passée ce dernier hiver. Pourquoi? Parce que les grandes quantités de gaz naturel sur le marché grâce à la production aux États-Unis. Le prix de gaz naturel a resté quasiment constant pendant que le prix de pétrole a doublé dans les deux dernières années. L'importation de gaz de schiste, de gaz naturel en France, coûte 4 milliards d'années. C'est à peu près le budget du CNRS. Et on peut envisager le gaz de schiste comme un tampon, quelque chose de provisionnel, entre maintenant et l'arrivée de l'énergie renouvelable, ou un changement radical de notre style de vie. Quels sont les inconvénients? Possibilité de pollution de nappe phréatique? Peut-être, mais il y a une paper publiée dans le Parlement britannique il y a une semaine dans laquelle, après une étude conséquente de 9 mois, ils ont dit qu'il n'y a aucune évidence de pollution de nappe phréatique grâce au processus d'extraction de gaz de schiste. Pollution sonore visuelle, oui. Si vous avez vu la vidéo Gaslands, ils ont parlé beaucoup de ce type de nuisance, mais ce n'est pas très important. Troisième grande consommation d'eau, oui, c'est vrai, mais la consommation d'eau pour l'agriculture est beaucoup plus importante. La consommation pour le biofuel, biocarburant, c'est notre aussi très important. Donc, je vais terminer avec celui-là. Je vais commencer à répéter ce que je dis à propos des métaux. Donc, tous les métaux, toutes les ressources minérales nécessaires pour notre société sont présentes à la surface, auprès de la surface de la Terre. On a la capacité, la technologie d'extraire ces métaux. Mais le coût d'extraction peut être très élevé si la concentration est faible. Si notre société a besoin de ces métaux, si notre société est prête de payer les coûts de l'argent, de l'énergie et l'impact sur l'environnement, ces métaux sont disponibles. Il faut investir massivement dans la recherche pour trouver ces gisements, le futur gisement. Et ce qu'on peut dire, le bottom line, les pénuries d'autres ressources, surtout l'eau, l'énergie, les conséquences des changements environnementaux sont beaucoup plus sérieuses qu'une possible rareté des métaux. Merci pour votre attention.